La semaine dernière, on s'était arrêté, on avait commencé à parler de la mine de l'orgueil et on s'était arrêté avec ces 7-8 pages que je vous ai données, qui, inversées après l'autre, qui nous parlent de l'orgueil, de l'orgueilleux, et vers la fin, sur l'humble et l'humilité. Et je voulais qu'on revienne là-dessus et de vous laisser la parole s'il y a des versets ou un verset ou une pensée de. Un de ces versets sur, ou plusieurs, de tous ces passages qui vous ont été donnés, auxquels vous aimeriez dire quelque chose, ou poser une question, ou quoi que ce soit d'autre. Alors la parole est à vous pour commencer l'étude ce soir. Je vous laisse le temps de réviser un peu. Et je vais commencer avec juste avec la toute première qui se trouve en 2 Samuel 22, 28, où il nous dit tout simplement, Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Juste pour donner cette précision, ce n'est pas juste l'individu, Dieu s'intéresse à nous personnellement aussi, mais Dieu n'est pas insensible. Un peuple qui agit de la sorte non plus. S'il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Il aime quand c'est tout, pour lui, dans ce contexte-là, son peuple, le peuple d'Israël. On peut prendre le même contexte pour nous aujourd'hui, tout un peuple ou même toute une église qui s'humilie. Comment il prend plaisir à cela. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Il n'est pas insensible non plus, à l'inverse. Ce mot abaisser, il veut dire de rendre humble l'orgueilleux. Et cette idée d'abaisser, dans le langage courant, on dirait aujourd'hui de le remettre à sa place. Tu te crois être quelque chose, ben laisse-moi te dire qui tu es vraiment. On va t'abaisser un petit peu. Ça, c'était pour le premier verset qui était donné sur votre liste. Peut-être que ça vous avait donné le temps de réviser cette longue liste qui a été donnée la semaine dernière en tant que devoir pour aujourd'hui. Oui.
Un verset qui me parle souvent, c'est le Matthieu 11, 29.
Matthieu 11, 29. Je répète parce que sinon l'audio, ils n'entendent pas.
Oui, c'est pour la page 7.
Oui.
J'aime bien le passage. Jésus parle de lui-même en disant que je suis quelque chose. Peut-être qu'il se fait en attendant de vous et humble. Personne qui pouvait avoir un peu de fierté, il n'en avait pas.
C'est vrai. Le seul être qui était réellement parfait et tout puissant et etc. qui savait toutes choses. Généralement, l'orgueil s'enfle ou se présente beaucoup chez les personnes qui ont beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? Et surtout s'ils voient quelqu'un dire ou faire quelque chose qu'ils savent être pas correct, ils vont utiliser le terme « je n'ai pas pu m'empêcher de les aider », les corriger. Et penser à Christ, combien de choses qu'il a vues qui n'étaient pas correctes pendant sa vie, qu'il n'a rien dit. Les personnes qui ont dit quelque chose d'une mauvaise façon, qui ont fait quelque chose qu'ils auraient pu faire d'une façon meilleure, parfois, on le voit parler, on le voit, mais ça a toujours été dans un contexte bien spécifique et dans un but bien spécifique. Ce n'était pas son caractère, ce n'était pas son témoignage à celui qui corrige tout le monde. C'est vrai. Quelqu'un d'autre?
préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Moi, je sais que je pense que quand je suis face à un orgueilleux, souvent j'ai envie de me. En général, on se sent rabaissé face à quelqu'un d'orgueilleux.
Ouais.
Et je pense qu'on a vraiment la tendance à vouloir s'élever soi-même, prendre le dessus.
Ouais.
Et qu'il ne domine point sur moi, parce qu'en fait, je pense que c'est une tentation. De vouloir dominer en retour sur eux. Et alors je serai intègre, innocent, de vouloir empêcher. Mais ça rappelle la gravité en fait de l'orgueil. C'est un grand péché.
Oui.
On ne se rend pas toujours compte que c'est un grand péché en fait. Parce que le pire.
On aime le banaliser en disant que c'est normal, qu'on n'y peut rien.
On défend ses intérêts.
Mais c'est vrai que la réaction, j'aime pas utiliser le terme normal, mais courant, naturel de l'homme face à l'orgueil, c'est d'être orgueilleux. Mm-hmm. Alors, c'est, tu vois quelqu'un qui est fier dans le mauvais sens, qui est orgueilleux, qui est arrogant, ça donne envie, comme on dit tout à l'heure, de le remettre à sa place. Mm-hmm. Surtout si, dès qu'il dit quelque chose d'un peu de tort, ah ça y est, l'ouverture est là. Je vais pouvoir lui montrer. Mais ça, parce que ça renfle notre orgueil, c'est vrai. Et c'est pour ça que Dieu veut nous enseigner à ne pas avoir justement une réaction qui est naturelle à notre chair, mais qui soit conforme à lui et à sa volonté. Ça, on viendra plus tard. Mais c'est vrai que c'est une réaction qui est naturelle, parce que ça, l'orgueil attise l'orgueil. Quelqu'un d'autre? Mais c'est pour rejoindre aussi ce que tu as dit. Moi, c'est dans l'ensemble, si on prend la totalité, il n'y a pas le moindre place pour le moindre soupçon comment Dieu a en horreur l'orgueil. Il le dit à plusieurs reprises avec le mot haine, que Dieu a, il a l'orgueil en horreur. Et donc de voir ça en plus chez ses propres enfants, on voit les versets où on voit que ça le touche encore différemment que quand il le voit dans le monde. Il parle de Sodome, il parle pas de toutes les choses ignobles qu'il faisait, il parle de leur orgueil dans le passage que c'est ça qui le repoussait encore plus qu'autre chose. Il ne savait pas qu'il néglige les autres choses. Je regarde. Bon, il y a plusieurs passages où en Deutéronome 17, en 1 roi 1-5, c'est les pages 2 et 3, en Néhémie 9-16, il y a les termes qui sont utilisés avec l'orgueil qui m'ont parlé également. Il dit, page 2 en bas, en Deutéronome 17-13, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Cette image de se livrer, hein, de ne plus résister, de se donner entièrement. Un roi, 1-5, il dit, se laissa emporter par l'orgueil. On voit où l'homme pense pouvoir maîtriser ses émotions, pense pouvoir maîtriser qui il est, comment il réagit, mais quand il s'agit de l'orgueil, quand on ne réalise pas qu'on laisse cet orgueil nous contrôler. Et Néhémie 9-16, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils se sont laissés aller entièrement, ils se sont donnés tout entier, ils n'ont rien retenu à tout ce que leur orgueil voulait. Ils n'ont aucune maîtrise. C'est ce que cela implique. Ce livre, ils se laissent emporter. Ils raidèrent leur cours, ils n'écoutèrent point les commandements. Et il y a plein de versets où on n'a pas le temps de toutes les voir. On voit justement le cause à effet où quand ils se donnent, ils choisissent l'orgueil et se donnent à l'orgueil, à chaque fois, ils donnent cette position. Alors, à cause de cela, ils n'écoutèrent pas. À cause de cela, ils ne se sont pas soumis. Comme Jérémie 13, 15 et Jérémie 42, 3, 43, 2, pardon, à la deuxième page, écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous ne prêterez pas l'oreille, vous ne voudrez pas écouter, car l'Éternel parle. Et ensuite, il donne l'exemple. Azaria, fils d'Osée, etc. Et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire. Il dit, Jérémie essaie de leur dire. Mais à cause de leur orgueil, ils ont fait exactement ce qu'il leur avait dit de ne pas faire au chapitre 13, de les écouter. Il dit non, c'est toi qui mens. Ça ne peut pas être nous qui avons tort, ça ne peut pas être nous qui sommes en tort, c'est toi. L'orgueil ne voudra jamais réaliser que le problème peut venir de moi. L'orgueil ne veut pas écouter, l'orgueil veut prouver, veut parler, veut démontrer. Mais ensuite, on voit comment Dieu voit l'orgueil, il dit les versets comme Lévitique 26, 19, je briserai l'orgueil de votre force. Il se croyait fort, il dit, moi je vais briser cela, je ne veux pas le voir, je ne veux pas accepter cela. Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. On pourra lire verset après verset hein, toutes ces 7 pages. Un autre qui m'avait beaucoup parlé, c'était Psaume 73, 6. Il dit aussi l'orgueil leur sert de collier. Ce mot collier, littéralement, ça veut dire une chaîne qui étouffe. C'est comme les esclaves, quand on leur mettait les chaînes autour du cou pour les contrôler, les tirer, mais sauf que celui-là, c'est une chaîne qui peut se serrer. C'est l'image qu'il donnait de. C'était ce collier-là dont il parlait. Il dit aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils sont plus maîtres. C'est pas eux qui contrôlent. C'est leur fierté, c'est leur orgueil. Et partout où on voit, quand Dieu parle de l'orgueil, les deux choses. Une, il a ça en horreur, il ne l'excuse pas, et l'orgueil ne fait que détruire. L'orgueil ne fait que nuire. L'orgueil ne fait rien de bon, rien de positif. En Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Plusieurs fois, il est mentionné dans différents passages. Comme en Proverbe 13, 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Pourquoi on exciterait des querelles? Parce qu'on est certain d'avoir raison. Celui qui veut débattre n'est pas celui qui croit pouvoir peut-être avoir tort. C'est celui qui est certain d'avoir raison, celui-là, il veut rentrer dans le débat. Celui-là, il va montrer, il va dire, et exciter des querelles. Tu as tort, tu ne devrais pas faire comme ça, etc., etc. Mais là, c'est. Et d'ailleurs, le reste de ce verset, hein, Proverbe 13, 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueilleux n'a pas besoin d'écouter les conseils, c'est les autres qui devraient écouter son conseil à lui. L'orgueil, la fierté, l'arrogance. C'est pour ça que, comme dans les versets qu'on avait partagés la semaine dernière, Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Parce que tu ne pourras jamais rien construire de positif avec à la base l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil d'un homme l'abaisse, ce qui est le contraire de ce que lui croit. Il se croit se valoriser, il se croit montrer aux autres combien il a raison, combien il est meilleur, combien il a, etc. Mais en fait, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il dira, celui qui est humble ne dira peut-être pas grand-chose, alors qu'il a raison. Mais il laissera les œuvres être, ou le fruit de ses œuvres être la réponse de qui il est. Et ce seront les autres qui diront, en fait, il avait raison, lui. On ne l'avait pas entendu, mais il a fait, et maintenant qu'on voit le résultat, celui qui parlait le plus fort et le plus, il avait tort. Et ils ne vont pas ils vont pas l'élever, ils ne vont pas dire, on avait raison de le suivre, on aurait dû le suivre, mais ils diront, celui qui parlait pas aussi fort, il n'avait pas tort. Proverbe 30-32 dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, c'est quelque chose, c'est fort quand même. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Tais-toi, tu n'as rien à dire. On ne veut pas t'entendre, on n'a pas besoin de t'écouter, tu n'as rien de bon à partager. Et vous savez, quand on parle de l'arrogance, l'orgueil, et le fait d'être orgueilleux, on ne pourra pas tout voir sur cette mine de l'orgueil. On verra quelque chose d'essentiel, et à chaque fois, j'ai dû faire des efforts pour justement m'arrêter, et peut-être, vous aurez peut-être l'impression de temps en temps que je m'arrête un peu brusquement dans certaines pensées, parce que on pourrait en fait faire une série d'études rien que sur cela. On pourrait faire une série d'études qui dureraient pendant des mois, rien que sur l'orgueil et l'humilité, et pour nous aider dans ce domaine-là. Mais ce n'était pas le but de cette étude dans son ensemble, donc on va expédier un peu les choses, mais il fallait bien quand même qu'on se remette en question, qu'on relise, même si ce n'est que ces quelques versets de temps en temps, de voir comment Dieu voit l'orgueil. Ce n'était pas une question de qu'est-ce que moi j'en pense, ce n'est même pas une question de ce que le monde en pense ou ce que les autres chrétiens en pensent. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de l'orgueil? De quelle manière est-ce que lui le voit quand il voit cette arrogance, cette fierté, cet orgueil dans la vie et dans le cœur de ses propres enfants? Et ça ne devrait pas nous laisser insensibles. Je m'assurerai à ce qu'il n'y ait pas un verset que je veux absolument. J'en ai marqué plein, mais vous le savez, comme dans les passages en Corinthiens, on utilise encore ce terme aujourd'hui, où il parle de combien de fois, à chaque fois qu'il parle de l'orgueil, il parle d'enfler d'orgueil. Donc on ne peut pas penser à ce mot sans penser à ces ballons de baudruche, à ces balloons qu'on gonfle. C'est rempli d'air chaud. Et c'est vide quand même. Il n'y a rien d'important à l'intérieur. C'est un peu ça au début, c'est chaque fois que tu parles, ça gonfle un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. C'est même dans les traditions dans la langue française, hein, on y fait un peu référence. Il a la tête qui gonfle, ou il y a les chevilles qui gonflent, selon de quelle partie de la France on vient. Et c'est un peu cette idée, on s'enfle d'orgueil. Mais ensuite, je ne me sentais pas à l'aise de partager tout cela sans terminer avec quelques versets sur l'humilité et être homme, même si j'ai oublié la lettre M, je viens de voir. C'est Hubble. Et comme ça a déjà été démontré, l'exemple de Christ, ce n'est rien d'autre. Ils en parlent déjà en Zacharie 9:9, où il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Et Matthieu 11:29, qu'on en a déjà parlé. Et même le Matthieu 18:4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble. C'est un choix personnel. Ce n'est pas une excuse de ben c'est dans ma nature, je suis comme ça, c'est normal, j'y peux rien. Ce qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer. Vous rappelez, on m'en avait dit tout à l'heure, l'orgueil, la fierté, ça avait tous ces connotations de se livrer à, de se laisser emporter par l'orgueil. Ben, le contraire, c'est de se laisser attirer par ce qui est humble. d'avoir un amour pour ce qui ressemble à Christ et non ce qui plaît à la chair. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La dernière page, un Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Les deux viennent avec la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il dit recherchez la justice, recherchez l'humilité. Ça ne viendra pas tout seul. Juste parce qu'on s'est dit, oh ben maintenant je vais être humble. Hop, et hop, ça y est, c'est fait. Il y a des efforts, il y a des recherches. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de dépendance qu'on verra de la part de Dieu. On terminera avec les deux derniers passages en 1 Pierre 3, 8 et 5, 5. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. L'humilité qui est assimilée avec toutes ces autres choses, comme si de rien n'était. Ce n'était pas plus difficile et moins accessible que les autres. De la même manière qu'on peut se revêtir d'avoir ces mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ce n'est pas plus difficile que les autres. Satan voudrait nous faire croire que ça l'est. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. On a entendu pas mal de messages rien que sur cette vérité-là, et on pourrait en entendre d'autres, et je pourrais en prêcher toute la soirée rien que sur cette vérité-là aussi, mais c'est encore une fois pas le but. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et pour revenir à nos notes habituelles de... Et à la page 10, on note comment Dieu regarde l'orgueil. Après avoir lu tous ces versets, est-ce qu'il y en aurait le moindre d'entre nous qui oserait dire bah, l'orgueil pour Dieu, c'est pas si grave. Que Dieu ne regarde pas l'orgueil comme étant quelque chose de... C'est secondaire. Et je crois qu'au contraire, le plus qu'on regarde ce que Dieu dit par rapport à l'orgueil, et comment lui le voit, et comment lui nous voit, qu'on devrait avoir l'habitude de toujours demander à Dieu pour la sagesse, pour savoir comment faire face aux circonstances de la vie. Parce que l'orgueil voudrait nous faire croire que j'ai besoin de demander de la sagesse de Dieu seulement quand les problèmes de la vie sont plus grands et que mes capacités, que ma personne. Alors, moi, le plus que je lis ces versets, le plus que je me dis, je n'ai pas besoin d'attendre pour savoir qu'est-ce que cette journée me réserve, mais que je sais que j'ai besoin de la sagesse de Dieu tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre pour savoir est-ce que Dieu m'a déjà rendu assez fort pour faire face à cela, mais que j'ai besoin de lui demander de la sagesse tout de suite, dès le matin. Et que j'ai besoin d'être rappelé, de lui demander pour sa sagesse, sa force, d'être guidé par lui, etc., au courant de la journée, à multiples moments et à multiples reprises, au lieu d'aller de l'avant, croyant que je peux me charger de cette journée, seul s'il y a un gros imprévu, alors là, j'irai vers Dieu. C'est de l'arrogance, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil de croire que je peux pouvoir faire face à la moindre chose sans l'aide de Dieu. Et beaucoup de fois, comme on a dit, oui, Dieu nous fait grâce et nous aide alors même qu'on n'a pas demandé son aide, mais pas si on n'est pas humble en même temps. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin à ce qu'il me vienne en aide, qu'il me donne la sagesse pour prendre des bonnes décisions, la sagesse pour répondre avec le bon caractère, avec montrer de la compassion, montrer de l'amour, au lieu de montrer de la fierté, de l'orgueil moi-même. Et même quand je n'ai pas pensé à lui demander spécifiquement pour ce besoin spécifique qui vient de surgir, il sait que je dépends de lui. Il sait que je ne dépends pas de ma force. Il sait que je lui fais confiance et donc il peut me faire grâce. Parce que ma foi, ma dépendance n'est pas en ma personne, en mes expériences, en ma sagesse, en mon plan que j'ai bien organisé pour cette journée. C'est notre orgueil qui nous pousse à croire qu'on a besoin de prier seulement quand les difficultés sont trop grandes ou trop fortes. Nous devons prier pour la sagesse tous les jours, peu importe ce que cette journée nous réserve. Et même avant de savoir ce que cette journée va nous réserver, on doit prendre l'habitude de prier pour la sagesse de Dieu. Après tout, ce n'est pas l'humilité qui nous empêcherait de faire cette prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'humilité qui se dit que on est assez fort, que les problèmes sont plus petits que moi. Ou que c'est bon, celui-là, il est à ma portée. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui font qu'une personne tombe sous l'emprise de l'orgueil. Souvent, il est trop centré sur lui-même. Il est l'être le plus important à ce moment-là, dans sa vie. Comme on voit qu'on nous dit constamment à travers les pubs, de toutes les différentes façons, parce que je le vaux bien, parce que je peux, si je m'y efforce, je peux faire tout ce que je me mets à l'esprit de faire, rien ne m'est impossible à moi. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Et rien ne nous est impossible à travers Christ, pour nous chrétiens. Et Dieu peut nous aider à accomplir n'importe quelle tâche qui est selon sa volonté. Mais il y en a qui tombent sous l'emprise de l'orgueil parce qu'ils sont beaucoup trop centrés sur eux-mêmes. D'autres parce qu'ils se sentent inadéquats. Ils ne sont pas qualifiés. Mais ils font quand même. Et quelqu'un leur dit, oh ben, c'est pas trop mal du tout ce que tu as fait là. Et la personne dit, ouais, en fait, c'est vrai, c'était pas mal, je suis étonné de moi. Et puis, tout d'un coup, sans s'en rendre compte, c'est pas de la fierté d'un travail bien fait, c'est de l'orgueil qui rentre. Il faut faire attention. Beaucoup se laissent aller sous l'emprise de l'orgueil parce qu'ils sont immatures, tout simplement. Incapables de gérer les responsabilités, parce que, tout simplement, ça leur monte à la tête. Ils faisaient un travail de bien, ils faisaient humble. Et quelqu'un leur donne, parce que tu fais un bon travail, tu as une promotion. Maintenant, tu as un travail avec beaucoup plus de responsabilités. Tu as des personnes sous ta garde, tu as des personnes sous ta responsabilité. Et c'est bien. Puis, peut-être qu'ils veulent commencer aussi comme je suis peut-être pas adéquate. Est-ce que c'est vraiment de l'humilité ou de la fausse modestie? Et tout à coup, parce que maintenant ils ont ce qu'ils n'avaient pas avant, une place d'autorité, de responsabilité, ils ne savent pas comment gérer cette nouvelle responsabilité. Et ça leur monte à la tête. La même chose pour le fait qu'ils sont incapables de gérer leurs biens ou les bénédictions que même parfois Dieu leur donne. Et ces mêmes bénédictions leur montent à la tête. Dieu pourvoit, Dieu donne. Et ils voient les biens matériels que Dieu leur pourvoit comme quelque chose qu'ils ont mérité, qu'ils ont acquis, qu'ils ont réussi, comme une marque et un signe de succès. Ah, ils ne disent pas que ce n'est pas Dieu qui ne les a pas aidés, mais Dieu m'a aidé parce que moi, je. Au lieu de dire, je ne mérite pas que Dieu me bénisse comme cela, mais je le remercie. Et je redistribue, ou je fais ce que... Mais ils ont du mal à savoir bien gérer, parce que ça leur monte à la tête là aussi. Et peut-être que ce n'est même pas nécessairement les biens matériels. Ça peut être une position d'honneur, une position d'autorité, ou encore même des talents que Dieu leur a donnés. Et à force d'entendre les personnes dire « Ah, oh, mais tu es vraiment talentueux, je ne pourrais jamais faire ça !» Je ne pourrais jamais faire ceci comme tu as fait. Et au début, ça allait. Mais petit à petit, je commence à dire, c'est vrai que j'ai pas encore vu quelqu'un faire comme moi non plus. Puis, sans s'en rendre compte, ils se sont laissés tomber sous l'emprise de l'orgueil. Rare, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est rare que c'est quelque chose qui commence d'un jour à l'autre, comme ça, boum, ils sont humbles. Ah, tout à coup, du jour au lendemain, ils sont orgueilleux. C'est un processus, petit à petit, un petit changement, une différente façon de réfléchir, de penser, de voir la chose, d'arrêter de demander à Dieu pour la sagesse, pour le discernement, pour la force, pour d'être guidé, etc. Et petit à petit, et tout à coup, une fois qu'ils se rendent compte, ou une fois que les autres se rendent compte qu'ils sont maintenant pas aussi humbles qu'ils étaient auparavant, mais qu'ils sont tombés sous l'emprise de l'orgueil, c'est trop, entre guillemets, trop tard, c'est jamais trop tard. Mais ça y est, leur pied est posé sur cette mine. Et l'orgueil est un bien vilain piège. Et comme une mine, elle est sans pitié, elle ne veut qu'exploser et faire autant de dégâts que possible. Elle est rarement facile à voir venir. Elle s'incruste dans notre vie en murmurant des pensées d'arrogance et combien nous, on est important. Tu as de la valeur et nous en avons. Mais l'orgueil mettra l'accent sur nous. On l'avait dit ça la semaine dernière, n'est-ce pas? L'orgueil met l'accent sur nous. L'humilité met l'accent sur Dieu. J'ai de la valeur, mais pas à cause de qui je suis. J'ai de la valeur parce que Dieu a payé un grand prix pour moi. Parce que Christ est mort pour moi. C'est ça qui fait de moi de la valeur. Et non qui je suis moi. L'orgueil, elle va tout faire pour nous y isoler de Dieu. Pas nous rendre une meilleure communion avec Dieu. Elle nous empêche d'être transformés pour devenir des personnes avec un cœur qui soit entièrement dévoué pour plaire à Dieu. J'aimerais continuer, mais je préfère m'arrêter là parce que sinon, on n'est pas allé bien loin dans nos notes parce que j'ai voulu prendre le temps de réviser ces versets avec vous aussi, au moins un petit peu. Mais avant de terminer et d'aller dans les moments de prière, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur le peu qu'on a vu ce soir?